Alors maintenant, on va parler de politique et de militantisme avec Jean-Marie, qui était samedi place de Jaude et qui a tendu son micro aux organisateurs du rassemblement contre l'état d'urgence policier.
C'est vrai, Marion. Bonjour. Quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, il y a maintenant un petit paquet d'années, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Le déroulement très bon enfant des manifestations, quel que soit le sujet. À Rennes ou à Nantes, où j'étais auparavant, par exemple, j'étais habitué à voir des défilés et des queues de cortège un peu moins rangées. Dans ces villes, les manifestants sont souvent accompagnés discrètement d'une poignée de gars bien motivés, aux chaussures noires ou rouges, qui sont là pour tenir les contre-manifestants assez loin. Parfois ça dérape, assez rarement quand même. Dans ces villes, la police est toujours présente en grand nombre. A l'inverse, à Clermont-Ferrand, ces rassemblements m'ont souvent paru familiaux, ambiance promenade dominicale. Alors je raffole pas des conflits et des démonstrations de force gratuites, mais cette différence de culture m'a pendant longtemps surpris. Qu'est-ce qui fait cette spécificité ? Dans les autres villes que je citais juste avant, les organisations antifascistes sont structurées, organisées et constituent un élément important du paysage militant. Elles sont une réponse concrète à la violence organisée de groupes d'extrême droite. Or, il semble que depuis une ou deux années, les choses changent aussi ici. Dans la matinale de mercredi, j'ai diffusé un reportage réalisé autour du rassemblement de samedi 12 décembre, notamment contre l'état d'urgence policier. À cette occasion, j'ai fait la rencontre de quelques militants d'une cellule antifasciste qui vient de se monter en Auvergne. Alors, depuis quand existent-ils et pourquoi ont-ils ressenti le besoin d'exister ? Je suis allé les interviewer lundi dernier et je vous propose de les écouter pour comprendre un peu mieux leur motivation.
La CARA, c'est la cellule antifasciste révolutionnaire d'Auvergne. En fait, c'est un groupe qui s'est développé suite à la lutte contre le local du Front National dans le quartier de la Gare. Donc il y a 3 ans. Après, en fait, on a décidé d'unir nos forces en fait pour pouvoir être plus présent, d'être plus réactif face à la montée du fascisme, du Front National, de l'islamophobie, de tout ce qui est l'homophobie et toutes nos luttes autour de ce thème-là. La CARA était donc fondée pour lutter contre les fascistes et toutes les personnes réactionnaires. Ça va être dans la rue, ça va être dans la lutte idéologique aussi. Donc la première action de la CARA, en fait, malheureusement, on était présent au concert de soutien au sans-papiers à l'Hôtel des Villes en janvier 2014. Et il y a un fasciste d'extrême droite bien connu qui a donc décidé de tirer sur ce concert de sans-papiers. 2 camarades ont été blessés suite à cette altercation, qui a donné lieu en fait à vraiment à vouloir ancrer la lutte, vouloir être plus présent sur le terrain. On vient aussi de différents mouvements, on a des communistes, on a des anarchistes, on a aussi des personnes qui ne sont pas encartées dans aucun de ces deux mouvements, qui on est tous réunis pour lutter contre la société qu'on veut nous proposer, qui est une société fasciste, réactionnaire, avec une entrave des libertés individuelles, des libertés collectives, comme on le voit en ce moment avec l'état d'urgence.
Nous, on a une vision, en gros, où on sait que c'est la bourgeoisie la plus chauvine, la plus réactionnaire, qui vise à écraser le peuple, à l'empêcher de se révolter. Et justement, nous, on est là aussi pour unifier le peuple autour de luttes, et ça peut être sur le terrain culturel, comme ça peut être sur le terrain militant, par exemple, les manifestations, comme on a organisé samedi dernier.
De ce que je connais des groupes similaires qui existent ou ont existé dans d'autres villes, on retrouve donc le même déclencheur, la présence dans l'espace public de représentants actifs de l'extrême droite et le besoin de se structurer pour répondre à des violences fascisantes. Cependant, si les motivations initiales sont compréhensibles, j'avais du mal à saisir quelles étaient leurs actions quotidiennes et comment ils proposaient des choses constructives pour que les enjeux de ce qu'ils défendent soient accessibles à tous. Je leur ai donc demandé comment la CARA fonctionnait au quotidien et à qui elle s'adressait.
On lutte sur plusieurs questions. Le pouvoir bourgeois, il écrase un peu dans toutes les sphères de la société. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'unifier le peuple, notamment autour de la culture, du sport notamment. Par exemple, là, on a ouvert un club de boxe populaire où tous les jeudis, on se retrouve ensemble. Et c'est de 18h à 20h. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est bien sûr mixte, parce qu'on pense que...
Tout le monde est égal, quoi.
Ouais, voilà, c'est la lutte contre les discriminations, lutte contre le sexisme par le biais du sport. Et alors, je parle du culturel, il y a aussi tout ce qui est politique. Nous, on distribue des tracts sur les marchés, on est présent sur Internet, on est présent partout où faut l'être. Et donc, il y a un projet aussi qui a lieu, un stage d'autodéfense pour les femmes, justement, où c'est justement cette fois entre femmes, pour justement se former à la lutte contre l'oppression patriarcale. Et donc du coup de développer des liens de solidarité autour de ces questions. Donc après j'ai parlé de politique, les collages d'affiches, hein, voilà.
On est en train de mettre en place un journal, donc, le journal de Akira, ça s'appelle Résistance, qu'on va donc aussi diffuser dedans. Il y aura des articles sur l'actualité, ce qui se passe, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit en France ou dans le monde, mais il y aura aussi nos analyses politiques, de par exemple sur les dernières élections, de ce qui se passe d'un peu tout en fait. On va vraiment faire de l'analyse, on va aussi par exemple aussi sur Facebook, on va aussi diffuser des textes, pareil des analyses, nos communiqués. On va aussi permettre aux gens d'avoir une certaine analyse et une approche politique, enfin notre approche politique, pour essayer de leur prouver, de démontrer comment il faut lutter contre le fascisme. Parce que c'est évident, la lutte antifasciste, ça va pas être que dans la rue, ça va pas être que dans les manifestations, ça va vraiment être axé autour de ce qui va être évidemment pas vraiment de l'éducation populaire, mais ça va être vraiment de l'information, des choses comme ça.
On est justement présent là où il y a où les gens ils se retrouvent entre eux vraiment, où il y a de l'humain et du social qui se développe, notamment dans les marques.
Ouais, ou qu'il y a le peuple, ou qu'il y a les gens mixtes, ou qu'il y a surtout les classes ouvrières, tout ça, quoi, on essaye. Dans les quartiers populaires aussi, on va, et ouais, les marchés, quoi, après, on fait des tracts un peu partout, quoi.
On va beaucoup diffuser, donc au niveau des usines, au niveau des centres de formation, on va aussi aller diffuser auprès des étudiants et des étudiantes. On va vraiment viser, c'est ce qu'a dit David, on va viser les milieux populaires, les milieux ouvriers, les milieux étudiants, tout ce qui va être le peuple en fait.
Alors ce que je trouve intéressant dans les actions et prises de position de la CARA, c'est qu'elle, si elle concrétise une position politique forte, l'antifascisme, elle est constituée de membres aux couleurs politiques assez variées, anarchistes, communistes, etc. Et alors ils proposent des activités variées à destination de toutes et de tous. Je trouve aussi très positive leur position qui invite à l'action sans considérer la violence comme le canal central de réponse à la montée du fascisme. Alors autour du plateau aujourd'hui, ce midi à Radio Campus, il y a des gens qui sont installés de longue date à Clermont-Ferrand, il y en a d'autres qui viennent de plus loin. Je me demandais justement, et en guise d'ouverture de discussion, si vous aviez comme moi le sentiment de la relative tranquillité des manifestations et des rassemblements populaires de la capitale auvergnate, ce que j'évoquais en début par rapport à peut-être ce qui peut arriver dans d'autres villes. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut...
Oui, Noémie.
Bah oui, c'est sûr. Moi, ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'allers-retours à Paris au mois de fin novembre, décembre, et j'ai participé aux manifestations citoyennes contre la COP21. Et j'ai été vraiment super étonnée de voir... Enfin, à Paris, c'était juste surfliqué tout le temps, partout. Et à Clermont, sur la manifestation de samedi dernier contre l'état d'urgence, il y avait deux motos de policiers, quoi. Donc c'est clair que moi aussi, j'ai eu cette grande surprise. Je trouve qu'ici, il y a très peu de force policière surprésente.
Azir, tu voulais dire quelque chose ?
J'ai oublié ce que je voulais dire.
Paul ?
Non, bah pareil que Noémie, moi je suis aussi allé aux manifestations, enfin au village des alternatives à Montreuil qui s'est déroulé pendant la marche de la COP, et c'est vrai que d'après ce que j'ai entendu sur ce qui se passait à Paris, c'est effectivement là que la violence de l'état policier se fait le plus sentir, beaucoup plus fortement qu'ailleurs.
Alors du coup, j'en ai un peu discuté avec la CARA, et eux, leur sentiment aussi, c'est que quand en face, il y a des groupuscules fascistes qui sont actifs et violents, par conséquent, les antifascistes s'organisent, deviennent aussi répondre par la violence, et donc il y a une espèce de crescendo de la violence qui fait que la police aussi s'implique, et la conséquence peut-être, la raison pour laquelle c'est pas comme ça en Auvergne, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu cette montée successive et régulière de la violence lors des défilés, quoi. C'est peut-être une explication. Voilà. Alors il y a une autre question que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, peut-être vous aurez l'occasion de réagir en fonction de vos sentiments, c'est le fait que, alors eux ils proposent donc la CARA une manière de s'organiser, de lutter contre le fascisme, contre les oppressions, mais je me demandais si vous dans vos associations, dans vos démarches quotidiennes, dans vos vies, vous connaissiez d'autres structures ou d'autres organismes qui proposaient de lutter contre les comportements liberticides. Alors peut-être Paul, t'avais...
Oui, il y a bien des associations ou des mouvements qui se revendiquent de toutes ces luttes. Je pense bien sûr aux féministes parce que j'en fais partie, mais il y en a d'autres. Je sais pas, autour de cette table.
Aux féministes, alors est-ce que vous en connaissez d'autres qui agissent au quotidien pour justement lutter contre ces discriminations au-delà de...
Asia ?
Il y a le CGA.
Tu peux indiquer ce que c'est ?
C'est un groupe d'anarchistes, mais après je sais plus ce que veut dire leur sigle. Et il y a aussi Alternative Libertaire. C'était les deux groupes qui ont participé avec la CARA pour la manif.
Au rassemblement du 12 décembre.
Ouais.
Donc il y a quelques groupes comme ça qui s'organisent, qui structurent.
Oui, Fatou.
Oui, même pour lutter contre la restriction des droits des étrangers, il y a la CIMAD également, qui est très très active dans tous les endroits où justement les étrangers sont amenés à être même entre gros guillemets déportés. Parce qu'ils n'ont pas une situation considérée comme régulière.
Et c'est quoi justement leurs activités ?
La CIMAD, c'est un conseil, beaucoup de conseils, de prise d'informations, et après ils se déplacent dans les centres de rétention pour justement essayer de mettre à disposition de ces personnes des conseils juridiques, voire même, si ça va plus loin, après ils sont ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, ils s'en occupent aussi.
Donc c'est assez structuré.
Il y avait des droits d'homme aussi qui a grossi dans ces domaines-là, même dans l'aide juridictionnelle et dans le militantisme.
Et de ce que vous connaissez, est-ce que ces différentes structures, elles se coordonnent et coexistent ? Parce que moi, j'avais le sentiment, en discutant avec la CARA, qu'ils étaient proches de certains mouvements, du coup, on a cité tout à l'heure des mouvements anarchistes ou des mouvements, disons, un peu plus politisés. J'ai l'impression que parfois, il y a des frontières nettes et puis il n'y a pas cette porosité entre une idée politique forte, disons, idéologique, et puis du quotidien sur des questions comme le féminisme, par exemple.
C'est-à-dire, je peux bien comprendre.
Je trouve que parfois c'est segmenté en fait ces discussions-là et que du coup les gens s'intéressent pas à la diversité.
Bah, moi je pense que ça dépend des luttes je dirais est-ce qu'ils se montent ou pas un collectif pour justement s'impliquer complètement là-dedans. Alors sur les questions féministes, c'est sûr que c'est très transversal, donc ça nous permet à nous, aux féministes, de se positionner souvent dans des collectifs, que ce soit de syndicats, d'associations ou de courants. Je pense que ça dépend des luttes et des affinités qui se font entre les collectifs des partis ou des syndicats qui se font ou pas. Quoi.
En fait, si je voulais aborder ça, c'est que d'un œil extérieur à Clermont-Ferrand, je trouve qu'il y a des endroits où c'est plus structuré, c'est plus coordonné. Et ici, on a l'impression que c'est un peu morcelé, en fait. Voilà, c'était mon analyse.
Noémie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Segmentation un peu des courants de lutte. J'ai remarqué ça aussi samedi dernier, donc le 12 décembre, il y avait un rassemblement pour lutter pour l'état d'urgence climatique, appelé par Alternatidome, à 12h. Et à 14h, il y avait l'appel plutôt des groupes comme CARA et d'autres groupes communistes ou anarchistes pour une manifestation d'urgence. Et donc ces deux mouvements étaient vraiment séparés en fait. Je suis arrivée à 14h.
J'ai un problème de micro, vas-y, continue, tant qu'on t'entend.
Je continue la petite histoire.
Vas-y, vas-y.
Non, c'est juste que je suis arrivée à 14h sur la place de Jaude, donc à la fin du rassemblement Alternatiba et juste au moment du début de la manif contre l'état d'urgence. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été étonnée que ce soit deux mouvements, physiquement séparés, quoi. Il y a eu deux groupes de gens qui sont. Il y en a un qui est resté sur Jaude, l'autre qui a commencé son cortège. Et quelque part, un petit peu dommage que ce ne soit pas des luttes rassemblées, parce que même si les sujets sont différents, je trouvais que les luttes se rejoignaient sur le fait que Alternatidome, il cherche à montrer que la voix citoyenne veut s'exprimer sur la question climatique, et en contexte d'état d'urgence, le deuxième appel à la manifestation invitait justement à se dire « notre parole existe ». Donc moi, je trouvais que sur ce point-là, les deux luttes se rejoignaient, et pour autant, ça a été deux groupes très différents.
Oui, à dire ? Il n'y a plus personne. Ah, on a eu un petit problème de micro. Vas-y, on t'écoute.
Oui, donc par rapport à la manif contre la COP21, il y avait aussi pas mal de bobos. Du coup, je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de s'afficher avec des anarchistes et des communistes. Et c'est pour ça qu'ils sont restés sur Jaude.
Ah bon, tu leur as demandé ?
En tout cas, moi, j'ai vu quasiment que des bobos et des petits vieux. Du coup, les petits vieux, je pense qu'ils nous avaient pris pour des casseurs.
Je pense qu'au-delà de bobo ou petit vieux, pense que c'était vraiment deux appels différents et que des gens se retrouvaient peut-être pas dans l'un ou dans l'autre. Hein. Mais en tout cas, ça aurait peut-être été le rôle des gens qui appelaient à se manifester, de se coordonner pour le coup. Parce que je pense que dans la foule, les gens étaient peut-être juste pas au courant qu'il y avait deux appels différents. Ils en étaient venus sur l'un. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus ça, du fait que... Ou alors de se dire, on veut pas aller défiler avec les cocos. Enfin, je l'ai pas vu comme ça.
Moi, je sais pas.
J'en ai parlé un petit peu à la CARA, justement, j'aurais posé la question, et en fait, ils ont eu tardivement l'information de l'organisation de la manifestation de midi. Donc eux, ils avaient appelé à se réunir à 14h, et ce qu'ils disaient, c'est que quand ils ont appris le jeudi, juste avant, donc 3 jours avant, qu'il y avait un premier rassemblement qui était organisé plutôt par Attac et puis des gens qui voulaient parler de la COP21, eh bien, ils ont considéré que ce n'était pas un contre-événement, ils l'ont plutôt vu comme une transition logique avec d'abord en pique-nique, puis ensuite on va déambuler. Et puis, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est amener les gens qui étaient au pique-nique sur les questions climatiques à aller jusqu'à la préfecture. C'était un petit peu leur démarche.
D'accord. Bon, très bien. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? D'autres questions, remarques ?
Juste pour finir, je voulais profiter pour vous proposer une lecture en fait, sur des sujets assez proches qui permettent de comprendre plus finement comment les idéologies fascistes se sont construites en France. Alors, c'est un bouquin qui a été publié en 2015 chez Albin Michel, ça s'appelle « Le Corbusier, un fascisme français », c'est de Xavier de Jarcy, ça propose de suivre l'itinéraire politique de l'architecte mondialement connu. On découvre comment ces idées ont alimenté et participé à la construction des courants de pensée fascistes en France dès les années 20 et 30. Une manière de recontextualiser, de comprendre ce que sont réellement ces idées politiques au-delà des grandes idées naïves que l'on peut se faire dessus.